France Culture.
Tout de suite, c'est le point sur l'info, le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Cécile Kohler et Jacques Paris vivent leurs premières heures de semi-liberté à l'ambassade de France à Téhéran en attendant de pouvoir quitter la République islamique. Ce matin, le président Emmanuel Macron s'est entretenu au téléphone avec son homologue iranien pour lui demander la libération pleine et entière et le plus rapidement possible des deux ressortissants. Un socialiste d'origine étrangère élu à la tête de la plus grande ville des États-Unis, Zohran Mamdani, est devenu hier soir le plus jeune maire de New York. Depuis un siècle, cette victoire est-elle pour autant de nature à redonner de l'espoir au Parti démocrate? On posera la question à notre invité. L'Union européenne pourra afficher son leadership en matière environnementale à la prochaine COP sur le climat. Les 27 ont arraché ce matin un compromis sur leurs objectifs climatiques, mais au prix d'une série de concessions, détaillera lesquelles. Enfin, on l'a appris hier, le futur musée mémorial du terrorisme ouvrira bien ses portes d'ici quelques années à Paris. Or, on le verra, celui-ci existe déjà en partie, même s'il reste encore fermé au public. La fin d'un long cauchemar. Hier, Cécile Kohler et Jacques Paris, accusés d'espionnage pour Téhéran, sont donc enfin sortis de prison. Eux qui étaient partis pour vivre leur passion commune, réaliser leur rêve de parcourir ensemble l'Iran, auront passé au total l'une et l'autre plus de 3 années derrière des barreaux, accroupir dans les geôles du régime des Mollahs. L'enseignante et son compagnon ont finalement été remis aux autorités françaises, échappant ainsi à une insoutenable détention, mais sans aucune garantie sur ce qui va se passer à présent, une sorte de libération conditionnelle, en somme, jusqu'à la prochaine étape judiciaire. Louise Baudet, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors forcément, tout le monde s'interroge ce matin. Quand vont-ils pouvoir rentrer en France? A priori, l'histoire nous conseille de rester plutôt prudent. Possiblement, tout dépendra d'un deal entre Téhéran et Paris, puisqu'on a appris ce matin que l'iranienne Mahdieh Esfandiari, poursuivie en France pour apologie du terrorisme, a été transférée, elle, à l'ambassade d'Iran.
Oui, d'un côté, Jacques Paris et Cécile Kohler à l'abri dans l'enceinte de l'ambassade de France à Téhéran. De l'autre, Mahdieh Esfandiari, née en Iran, installée en France depuis 7 ans, traductrice diplômée de l'Université de Lyon, arrêtée en février dernier pour apologie du terrorisme, en attente de son procès mi-janvier et libérée sous contrôle judiciaire il y a 2 semaines. Elle se trouve en ce moment à l'ambassade iranienne à Paris. La concomitance est évidemment frappante et elle accrédite l'hypothèse d'un deal entre Paris et Téhéran. Deal que ni l'Elysée ni le Quai d'Orsay ne commentent, bien sûr. Officiellement, la France refuse toute négociation et la justice française est indépendante. Elle n'agit pas sur ordre, mais on peut supposer qu'un procès avancé de quelques semaines et une expulsion rapide de Mahdieh Esfandiari accélérerait la libération de Jacques Paris et Cécile Kohler. Téhéran communique beaucoup sur le sort de cette iranienne. Ce n'est évidemment pas un hasard. Alors, quand les deux Français peuvent-ils espérer revenir en France? Ça peut durer quelques jours, peut-être un peu plus, disait ce matin l'ambassadeur français en Iran. Mais les proches, les familles doivent-elles partager cet optimisme? Après sa sortie de prison, une autre Française détenue en Iran, la chercheuse Fariba Adelkha, a dû attendre 7 mois avant sa libération définitive en octobre 2023.
Alors on imagine que la nature exacte des tractations restera bien sûr secrète. Malgré tout, Louise, le changement stratégique de la France ces derniers mois a sans doute permis de faire évoluer favorablement ce dossier.
Oui, une augmentation assumée de la pression diplomatique, médiatique depuis janvier dernier, en rupture avec la discrétion privilégiée jusque-là. Le sort des otages d'État est désormais très officiellement la première préoccupation de la France dans le dossier iranien. Pas un point de presse du Quai d'Orsay, pas une interview du ministre Jean-Noël Barrot sans qu'il en soit fait mention, et cette pression culmine en mai dernier avec une plainte déposée devant la Cour internationale de justice, plainte très irritante pour l'Iran qui tient à sa réputation internationale, plainte retirée par la France le 25 septembre dernier au lendemain d'une entrevue à l'ONU entre Emmanuel Macron et son homologue iranien. Les deux dirigeants et leur ministre des Affaires étrangères se sont beaucoup parlé ces dernières semaines et ces derniers mois. Tous les canaux ont été gardés ouverts, assure un diplomate, malgré le soutien français à l'offensive israélienne lors de la guerre des 12 jours en juin dernier, malgré son rôle moteur dans le rétablissement des sanctions fin septembre. Emmanuel Macron, qui a eu de nouveau le président Pezeshkian ce matin au téléphone, vous l'avez rappelé, réclamant une libération pleine et entière le plus rapidement possible. Cela renforce à la fois l'hypothèse d'un deal, chacun mettant la pression sur l'autre partie. Cela valide aussi l'idée que dans ce dossier, c'est un mélange de pression et de discussion qui a payé.
Merci Louise Baudet. C'était il y a un an, jour pour jour, le bruit de l'élection de Donald Trump à un deuxième mandat faisait à nouveau trembler les murs de la Maison Blanche. Alors voilà que cet anniversaire se retrouve en partie gâché ce matin par l'écho des cris de joie entendus la nuit dernière chez les démocrates après avoir remporté les trois premiers scrutins majeurs organisés aux États-Unis depuis l'investiture du milliardaire républicain. Deux élections de gouverneur en Virginie et dans le New Jersey, et puis bien sûr la mairie de New York avec l'improbable victoire de Zohran Mamdani, 34 ans, un socialiste autoproclamé par ailleurs musulman, né en Ouganda, issu d'une famille d'intellectuels de la diaspora indienne et récemment naturalisé américain, autant dire tout ce qu'exècre a priori celui qui a fait de la Trump Tower le symbole de son empire à New York. Alors il convient de préciser malgré tout que ces trois scrutins se tenaient dans des régions qui penchent naturellement plutôt à gauche, et que par ailleurs, ces trois victoires ne sont pas de nature aujourd'hui à faire douter pour autant l'administration Trump, laquelle peut toujours s'appuyer sur la majorité du parti républicain dans les deux chambres du Congrès. D'où cette question, jusqu'à quel point la soirée d'hier marque-t-elle un vrai revers pour le locataire de la Maison Blanche, en même temps qu'une lueur d'espoir dans une période de plus en plus sombre pour la politique progressiste aux États-Unis. Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Clara Sebastiani, doctorante en civilisation américaine à l'université Paris-Cité. Bonjour madame.
Bonjour.
Rappelons peut-être pour commencer que Zohran Mamdani s'est imposé en réalité face à un autre candidat, lui-même issu du Parti démocrate, Andrew Cuomo, et qui s'était présenté donc en indépendant après son échec à la primaire. En ce sens, est-ce que la victoire de Mamdani est celle d'une ligne politique au sein du Parti démocrate ou seulement de son aile gauche ou seulement un cas isolé?
Alors, ce qu'on peut voir tout d'abord, c'est que cette élection, elle marque une volonté à la fois de renouvellement du personnel politique, hein, puisque elle a confirmé la défaite d'Andrew Cuomo qui avait déjà perdu, comme vous venez de le rappeler, à la primaire. Andrew Cuomo, qui est l'ancien gouverneur de l'État de New York, fils d'un ancien gouverneur de l'État de New York. Donc, cette victoire de Zohran Mamdani, elle marque cette volonté de renouvellement du personnel politique et aussi d'une rupture avec la ligne politique libérale dans un contexte d'inflation qui est absolument énorme, notamment à New York, hein, qui est la ville la plus chère des États-Unis, et dans un contexte aussi d'inquiétude face à la présidence de Donald Trump.
Vous avez eu vous-même l'occasion de croiser Zohran Mamdani donc lorsque vous avez suivi une partie de sa campagne aux primaires du parti. Quelles ont été les étapes donc qui ont porté un candidat aussi jeune à la candidature tout d'abord et puis à la victoire?
On a beaucoup entendu parler de sa présence sur les réseaux sociaux, hein, de son côté viral, mais en fait ce qui a joué un rôle vraiment crucial dans cette campagne et qui est souvent moins mis en avant, c'est vraiment le rôle joué par ce qu'on appelle l'organizing politique. En fait, Zohran Mamdani, il est membre des Socialistes Démocrates d'Amérique, qui est une organisation politique avec laquelle il milite depuis 2017 et avec laquelle il a déjà été élu en 2020 à l'Assemblée de l'État de New York. Et donc, en fait, sa campagne, elle a été soutenue par cette organisation politique qui compte aujourd'hui plus de 10 000 militants. Et en fait, c'est cette base militante surmotivé qui a pu lui permettre en fait de mener une campagne de terrain à l'échelle de toute la ville et de grossir en fait justement cette base militante. Elle n'a cessé de grossir depuis le début de la campagne pour culminer à 90 000 personnes qui se sont mobilisées au cours de cette élection pour Zohran Mamdani, que ce soit dans du porte-à-porte, des campagnes téléphoniques, toutes sortes de mobilisations. Donc il y a vraiment eu un mouvement d'engagement à la base des démocrates socialistes d'Amérique pour soutenir en fait cette campagne et qui a été présente sur le terrain dans tous les quartiers de New York pour couvrir, enfin, qui ont vraiment quadrillé en fait la ville de New York et ont provoqué un engagement plus direct en fait avec la campagne.
Et ce faisant, diriez-vous que le Parti démocrate est en train de muter, en l'occurrence, de se revigorer donc par cette gauche qui se revendique du progressisme, ou bien au contraire un schisme menace-t-il d'apparaître au sein du Parti démocrate?
Alors, ce qu'on peut voir, hein, c'est que de toute façon, là, on est dans une situation de fracture, hein, qui a été actée dès la défaite de Kamala Harris à la présidentielle. C'était déjà dormant, mais ça a vraiment éclaté à la suite de la défaite. On l'a vu notamment avec l'initiative de Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez quand ils ont lancé leur Fight the Oligarchy Tour, donc une série de meetings qu'ils ont menés en Amérique. Il y a vraiment une ligne de fracture, en fait, entre la ligne centriste, libérale, centre-droite, héritée, en fait, des Clinton, même de l'époque Obama, Biden, etc. Et de l'autre côté, la tendance vraiment plus à gauche, initiée par Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, et maintenant par Zohran Mamdani. Donc il y a vraiment, effectivement, une dissension très forte entre ces deux visages du Parti démocrate qui s'affrontent. Ce qu'on peut observer, en tout cas, à la fois... avec cette élection-là, mais il y a eu aussi d'autres victoires. C'est vraiment une revigoration de ce camp-là, en fait, et un regain de mobilisation populaire, en tout cas autour de cette
élection. Camp progressiste, c'est bien compris. Merci, Clara Sébastiani, donc doctorante en civilisation américaine à l'université Paris-Cité, d'avoir répondu à notre invitation, et merci également à Loïse Guérin pour la préparation.
Et ce premier anniversaire de l'élection de Donald Trump à un deuxième mandat est aussi l'occasion de souffler aujourd'hui une autre bougie.
Oui, le 36e jour de paralysie budgétaire aux États-Unis, soit le plus long shutdown de l'histoire du pays, avec toujours aucune issue à l'horizon. Et puis cet anniversaire est également l'occasion de dresser un premier bilan sur la place des immigrés, sans cesse pointés du doigt, que ce soit à travers les descentes musclées de la police ou les discours hostiles des autorités. Selon le département américain de la sécurité intérieure, 2 millions de personnes auraient quitté le pays depuis l'élection de Donald Trump. Plus exactement, un quart aurait été expulsé et les autres seraient partis volontairement pour échapper justement aux persécutions, mais aussi à la précarité de plus en plus éprouvante. Sauf que pour eux non plus, le retour n'est pas toujours facile. Illustration au Mexique avec ce reportage signé Gwendolina Duval.
Je déménage au Mexique. Je sais que beaucoup de gens pensent que c'est une folie, mais nous avons un millier de raisons de rentrer.
Sur les réseaux sociaux, les hashtags « Retour au Mexique » cumulent des centaines de témoignages. Comme eux, Pavel s'est installé à Guadalajara il y a quelques mois pour ouvrir une taqueria. Malgré son visa américain, il prend un nouveau départ après un quart de siècle passé de l'autre côté.
Les États-Unis vivent dans le mensonge. Le rêve américain n'en est plus un. Tout a changé et c'est devenu très dur. Et c'est encore pire avec ce président. Rendez-vous compte comme il fait du mal au pays.
Toutes ces années aux États-Unis, une famille éclatée entre deux pays, il reconnaît aujourd'hui qu'il est un peu confus.
On dit là-bas que c'est comme un deuil. C'est bien difficile. Il faut de nouveau s'adapter à tout. Tout a changé et il y a plein de choses que je ne reconnais plus. Aussi maintenant, c'est compliqué pour moi de ne pas laisser échapper un mot anglais. Les gens n'aiment pas.
Et puis si la gente te ve así como que, ¿no?
José Luis, lui, n'a pas eu d'autre choix que de s'auto-expulser après avoir été arrêté par les services de l'immigration américaine. À Acapulco, il a retrouvé sa ville natale et sa fille, devenue adulte 26 ans plus tard. Un choc.
Je n'ai pas pleuré, j'ignore pourquoi. J'ai longtemps vu ma fille uniquement au téléphone et de la voir en vrai, là, je ne pouvais rien dire. J'étais juste capable de la regarder et de l'embrasser. Mais tous les deux, on avait envie de pleurer, d'être restés si longtemps sans se voir et d'être ensemble à nouveau.
Ce boulanger a retrouvé un emploi moins payé qu'aux États-Unis et peine aussi à se faire à sa nouvelle vie au Mexique.
Les négociations ont duré toute la nuit et finalement, tôt ce matin, les Européens ont réussi à arracher un accord sur leurs objectifs climatiques.
Oui, juste avant le coup d'envoi de la COP, les 27 ont ainsi évité in extremis la catastrophe diplomatique qu'ils redoutaient, arriver les mains vides à la conférence sur le climat au Brésil. Sur le papier, l'UE maintient donc son objectif ambitieux de réduire ses émissions de gaz à effet de serre 90% en 2040, avec toutefois une souplesse pour y parvenir beaucoup plus importante que ce que souhaitait initialement la Commission. Preuve, Pierre Benazek, les tractations auront été compliquées pour convaincre les États les plus réticents.
Les 27 avaient imaginé terminer leur débat en fin d'après-midi ce mardi. Finalement, ils se sont séparés au milieu de la nuit avant de reprendre à 9h ce mercredi, après avoir dû demander des consignes à leur capitale sur ces négociations très tendues. En fin de compte, ils se sont mis d'accord à l'horizon 2035 pour ce qu'on appelle les contributions nationales pour la COP, à savoir une réduction des émissions de gaz à effet de serre qui se situera entre 66,5% et 72,5% de moins que le niveau de 1990. Cette fourchette assez large est décrite ce matin par plusieurs ministres européens comme la condition sine qua non pour arracher un accord à l'unanimité, indispensable pour la COP puisque les Européens y présentent en commun des contributions nationales. Mais ce n'est pas la seule décision prise ce matin. Il y a aussi l'objectif de 2040 qui ne concerne que l'UE et qui a été le plus dur à arracher. Ils ont adopté l'objectif de réduire les émissions que proposait la Commission, mais ont en quelque sorte adouci cette ambition en introduisant une flexibilité de 5 points. Ce sont des crédits carbone internationaux que les pays qui n'arrivent pas à atteindre l'objectif chez eux peuvent acheter en dehors de l'Union européenne en finançant des projets sur place. Sur ce chapitre-là, il fallait une majorité qualifiée. On avait cette nuit l'Italie ou la Pologne qui voulaient aller jusqu'à 10% de flexibilité. D'autres, comme les Scandinaves, les Pays-Bas et le Portugal, qui eux voulaient atteindre 90% sans flexibilité du tout. Le compromis pour pouvoir afficher malgré tout un objectif ambitieux implique par exemple de repousser d'un an jusqu'en 2028 l'application au chauffage des bâtiments et au transport routier du mécanisme ETS de marché européen du carbone.
Comment un mastodonte de l'e-commerce peut-il dans la même semaine être à la fois visé par une enquête pour la vente de poupées pédopornographiques et se voir offrir l'une des plus célèbres vitrines de Paris, celle du mythique bazar de l'Hôtel de Ville? Sans doute la réponse est-elle contenue dans la question, ou quand malgré les scandales, malgré l'enquête, malgré les sanctions administratives, eh bien le géant asiatique ouvrira bien comme prévu d'ici quelques minutes sa première boutique physique pérenne au monde en plein cœur de la ville lumière.
Et si l'on reste en plein cœur des agitations de la capitale avec ce sondage de l'Institut IFOP publié ce matin par le journal Le Figaro.
Oui, sondage qui place Rachida Dati en position de favorite pour les prochaines élections municipales à Paris qui se tiendront en mars prochain. Elle est donnée en tête des intentions de vote au premier tour, quels que soient les cas de figure, et elle est donnée vainqueur au second tour dans 3 cas sur 4 selon les configurations envisagées. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Le problème, c'est que certaines configurations justement ont été écartées, et notamment Stéphane, l'hypothèse d'un rapprochement entre écologistes et socialistes.
Oui, selon les hypothèses mises en avant par le journal Le Figaro, le score de Rachida Dati au premier tour est donné à 26-28%, voire 35% au cas où le candidat du parti Horizon, soutenu par les macronistes Pierre-Yves Bournazel, ne se présentait pas. Et le candidat socialiste Emmanuel Grégoire est donné, lui, entre 20 et 22%. Mais ce sondage omet un cas de figure qui a pourtant une probabilité assez importante de se réaliser, une alliance dès le premier tour des écologistes avec les socialistes. Pour l'instant, bien sûr, il n'y a pas d'alliance. Les discussions ne sont pas simples entre les candidats Emmanuel Grégoire et David Belliard, mais ces discussions existent et compte tenu du fait que les écologistes font actuellement partie de la majorité d'Anne Hidalgo qui dirige la ville de Paris, on ne peut pas écarter cette hypothèse. C'est pourtant ce que fait le sondage tel qu'il est présenté par Le Figaro ce matin. La raison, c'est sans doute parce que si l'on additionne les intentions de vote en faveur des candidats socialistes et écologistes, on est à 13-14% pour David Belliard, on arrive à un score compris entre 33 et 36% au-dessus du potentiel score de Rachida Dati, voire à égalité si Pierre-Yves Bournazel ne se présentait pas. Or, Le Figaro titre la double page qu'il consacre à ce sondage matin à Paris. Rachida Dati fait la course en tête, ce qu'il n'aurait sans doute pas pu faire s'il avait retenu l'hypothèse d'une fusion entre écologistes et socialistes. De la même manière, pour le second tour, il envisage l'hypothèse d'une fusion entre les listes Dati et Bournazel, et pas celle d'une fusion des listes Grégoire et Bournazel, ce qui, là encore, est une hypothèse qu'il ne faut pas complètement écarter. Par conséquent, il faut se méfier des sondages, on ne le dira jamais assez. Il faut se méfier des sondages, d'une part parce qu'ils ne sont pas une prédiction du vote à venir des électeurs le jour de l'élection, mais aussi parce qu'en fonction des questions posées et des hypothèses retenues, ils peuvent être le support d'un discours politique plus que le reflet d'une réalité.
Merci Stéphane Robert.
On l'a appris hier, le futur musée mémorial du terrorisme ouvrira bien ses portes d'ici quelques années à Paris.
Et c'est finalement dans une ancienne caserne du 13e arrondissement, tout près du Val-de-Grâce, boulevard de Port-Royal, qu'il verra le jour. Chloé Leprince, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est un projet qui a connu de très nombreux rebondissements et notamment quelques revers qui pouvaient faire craindre un abandon pur et simple. Et pourtant ce musée mémorial du terrorisme vit d'ores et déjà en partie bien avant donc son ouverture au public, puisque ce lieu qu'on appelle le MMT a aussi depuis l'origine, Chloé, une vocation scientifique.
Oui, deux chercheuses, la sociologue Claire Secaille et puis l'historienne Manon Pignot, y sont par exemple en partie détachées. Le MMT, c'est un musée qui vise aussi à réfléchir aux définitions. Il faut savoir que sur le fond, dès l'origine, le MMT a abordé le terrorisme comme un processus pour ne pas s'en tenir à un attentat, à une situation nationale. Et ça, c'était totalement inédit dans le monde. Henri Rousseau est l'historien qui a porté ce projet auprès d'Emmanuel Macron.
C'est un musée d'histoire, c'est-à-dire le fait même de construire une exposition permanente sur un sujet tel que nous l'avons conçu, c'est déjà en soi de la recherche. On est en train de redéfinir une certaine manière d'aborder la question du terrorisme, des victimes, etc. Pratiquement sur chaque mètre carré, de l'exposition, il y aura des questions qui ne sont pas résolues, des questions à rouvrir, des archives à consulter, voilà, sans même parler du fait que nos collections peuvent être objets de travaux de recherche, qui est le cas de la plupart des musées.
Et puis cette dimension scientifique, c'est aujourd'hui ce qui permet de faire déjà exister le projet. Bien avant l'inauguration, un grand colloque aura lieu l'an prochain, par exemple, sur la loi de 1986. C'est cette loi qui définissait pour la première fois en droit la notion de terrorisme.
Merci Chloé Leprince. 10 personnes blessées, dont 4 dans un état grave. Un automobiliste a percuté ce matin volontairement plusieurs personnes sur l'île d'Oléron. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte. En revanche, le parquet antiterroriste n'a pas été saisi à ce stade. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, généralement voilé dans l'ouest et en Languedoc-Roussillon. Plutôt lumineux partout ailleurs. Quant aux températures, elles seront comprises entre 15 et 22 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.